comme introduction, juste vous lire quelque chose que j'ai à cœur. C'est dans l'Épître aux Philippiens, tout au début. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Et c'est vrai que cette joie, elle est renouvelée en moi. Chaque fois que je viens ici, c'est comme, vous me permettrez l'expression, si je me trouvais à la maison. Alors, merci Seigneur pour toutes ces années passées, depuis plus de 45 ans maintenant où nous venions ici, et le privilège de pouvoir vous apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Je pense que comme tout bon chrétien, vous devez avoir la parole de Dieu avec vous. Vous avez donc une Bible ou quelque chose qui lui ressemble, et j'aimerais vous inviter à l'ouvrir. À l'ouvrir dans Marc. Marc 7, les versets 31 à 37. Je vous les lis. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on lui pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts sur les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephrata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus ils le leur recommandaient, plus ils le publièrent. Ils étaient dans un grand étonnement et disaient « Il fait vraiment tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Ce passage est étonnant. Et chaque verset appelle à une réflexion et un partage que Dieu désire nous communiquer à nous aujourd'hui. Et non pas seulement à ceux de l'époque qui lirent cette partie de l'évangile de Marc. Tout d'abord, une explication sur ce texte qui ne se trouve dans aucun autre évangile. Qui est Marc? Il n'est pas un disciple de Jésus. Il est l'interprète de Pierre qu'il a rencontré lors de ses passages, qui lui, par contre, a vécu avec Jésus. Il a suivi Pierre, il a écouté tous ses récits, son expérience de vie, à la manière de Pierre. Vous vous souvenez, ce fougueux, qui ne s'embarrassait pas de longues phrases, mais qui allait droit au but. Relevant ce qui, pour lui, était ce qui caractérisait le Seigneur et ce qu'il ressemblait et ce qu'il ressentait dans sa vie. Marc a donc écrit son évangile après la mort de Pierre et même après celle de Paul. Il a rédigé ses textes au travers de souvenirs, mais l'essentiel, ce qui touche encore aujourd'hui, ce que Dieu désire dire à son Église, est là, dans ces versets. Et je crois que Dieu, au travers de ce récit, a désiré communiquer quelque chose de particulier à cet homme, ce sourd-muet, à Pierre. Et il a essayé de transmettre un message à Marc, qui nous le transmet aujourd'hui encore. Ces paroles restent inspirées par Dieu afin de nous toucher et de nous parler d'une manière simple et claire. Souvenons-nous que la parole de Dieu est à notre portée pour nous permettre de progresser, de découvrir le langage de Dieu. Et le résumé de cet épisode peut s'intituler « J'ai quelque chose à te dire ». J'ai relevé 5 signes pour nous qui sont liés à cette interpellation contenue dans ce texte. Premièrement, le récit nous dit que Jésus quitta le territoire de Tyr et revint à Sidon, vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. Jésus aimait particulièrement se retirer dans le territoire de Tyr. Nous en avons la preuve dans Marc 7 au verset 24. Il alla dans le territoire de Tyr et de Sidon, il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, pour lui laisser le temps de prier et d'être en relation avec son Père. Mais il ne put rester caché. Et pourtant là, Dieu lui demande de quitter cet endroit privilégié pour aller ailleurs, là où il doit aussi se passer quelque chose. J'ai fait un rapide calcul. La distance entre Tyr et le lac de Galilée, c'est environ 160 kilomètres. Il n'y a pas de TGV, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a que les pieds. Donc c'est à pied que Jésus décide de faire ce voyage. J'ai même pas essayé de me poser la question si Marc s'est trompé, s'il ne connaissait pas bien la géographie, ou simplement s'il a mélangé deux épisodes. Non. Le récit nous dit ceci, et je le prends tel qu'il est. Retenons autre chose. Jésus obéit à son Père et marche à la rencontre d'une personne qu'on lui amène et qu'il ne connaît pas. N'y a-t-il pas là quelque chose de formidable et de particulier? Jésus ne fait rien de lui-même. Il ne fonctionne pas par les sentiments, et là encore, Jésus met en pratique ce qu'il nous enseigne. Dans Jean 12, au verset 49, Jésus dit « Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Et plus loin aussi, « Je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » C'est merveilleux de voir que Jésus a un rendez-vous avec cet homme, ce sourd-muet, selon un plan préparé par Dieu d'avance. Deuxièmement, on amène à Jésus une personne sourde et qui parle avec difficulté. Notre homme n'est pas demandeur, comme par exemple Bartimée, qui lui attend le passage du Seigneur. Mais Dieu a vu le cœur des deux personnages. Bartimée est repoussé par les disciples et par la populace. Les passants ne discernent pas le plan de Dieu. Par contre, dans notre histoire d'aujourd'hui, quel geste d'amour, de fraternité, d'humanité de la part des amis de ce sourd-muet. C'est ce qu'on peut penser. Oui, vous avez raison. Jusque-là seulement. Mais la différence entre nos plans, que nous avons souvent savamment échafaudés et présentés à Dieu, et la vision de Dieu, réside dans le fait que lorsque les foules demandent à Jésus de lui imposer les mains, ce dernier désire avant tout glorifier son Père, et non pas se glorifier lui-même, au travers d'un miracle public. Donne-t-on des ordres à Jésus? Doit-on lui dire de quelle manière il doit agir? Non. Mais par contre, la foi communautaire peut être récompensée. Une autre histoire similaire attire mon attention. Les fameux quatre amis, dans Marc aussi, qui descendirent le paralytique par le toit pour oser aller aux pieds du Seigneur. Et le Seigneur a répondu à cette foi communautaire. Ce qui me frappe dans ces deux épisodes, c'est qu'on amène à Jésus des personnes malades. Et la foi des amis touche non seulement le cœur de Jésus, mais révèle la foi cachée, peut-être pudique, mais grandissante, des malades et des accompagnants. Combien de fois dans nos prières nous demandons, avec politesse certes, que Dieu réponde selon nos critères, notre analyse de la situation et souvent selon nos solutions. Et nous nous étonnons de ce que nous ne recevions pas de réponse. Si Dieu a conduit Jésus de Sidon au bord du lac de Galilée, c'est afin d'accomplir ce que Dieu lui a communiqué. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Luc 4, versets 18 et 19. Et Paul de reprendre dans Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu n'est pas une théorie à appliquer, ni une religion, mais une vie de partage et de relation entre le Créateur et sa créature. Troisièmement, il le prend à part, loin de la foule. Ce n'est pas à cause de la foule et pour la foule que Jésus est venu, mais c'est à cause du témoignage qu'il désire rendre, préparant le terrain pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas dans un brouhaha des bruits du monde que nous pourrons entendre Dieu ou l'écouter. C'est loin de la foule, loin des tentations du monde, en tête à tête. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui, aujourd'hui, nous y invite aussi. Acceptons cette invitation. J'aimerais là faire une petite parenthèse sur une histoire vraie qui peut bien symboliser ce que je viens de vous partager. Un Amérindien d'Amérique du Nord se retrouve en pleine ville de New York avec un ami. Ils marchent ensemble sur l'avenue longeant Central Park, au milieu des voitures, des passagers, des klaxons, des bruits de la ville, etc., etc. Soudain, l'Indien s'arrête et s'exclame vis-à-vis de son ami, « Entends-tu le grillon ?» son ami s'arrête aussi, interloqué, regarde avec un air un peu particulier. Qu'as-tu dit ? Tu entends un grillon au milieu de tout ce brouhaha, au milieu de tout ce bruit ? Oui, dit-il. Et regarde. Et il se baisse, et au pied d'un arbre, il sort un grillon. Pourquoi cette histoire ? Parce que son ami lui dit, mais comment as-tu pu entendre le bruit du grillon ? Et il lui répond, je me suis exercé. Là-bas, dans les montagnes, au nord de l'Amérique, d'où je viens, nous avons le temps de prendre le temps, de nous asseoir et d'écouter. Même si nous avons des grandes villes, au milieu de ce brouhaha, nous apprenons à discerner quel bruit vient et d'où il vient et à quoi il se rapporte. N'en est-il pas de même pour nous aujourd'hui, de pouvoir au milieu de ce brouhaha de nos villes, de notre vie, reconnaître le doux murmure de Dieu qui désire nous parler ? On entend seulement ce que l'on veut bien entendre. Écouter est une chose, entendre en est une autre. D'ailleurs, Jésus n'a que faire de la foule. Il a un rendez-vous avec un homme atteint de sourdité et qui a de la peine à parler. J'anticipe peut-être. Mais s'il parle, c'est qu'il a déjà entendu et que sa sourdité n'est pas de naissance. Mais j'anticipe. Il y a une symbolique extraordinaire dans les gestes de Jésus. J'aimerais vous les énumérer. Premièrement, il le prend à part, loin de la foule, pour une intimité, pour un partage, au même niveau et donc à sa portée. Les mains sur les oreilles pour lui permettre d'écouter son cœur et de ne pas fragiliser sa foi grandissante. Sa salive sur sa langue, pour démontrer une chose claire et nette, ce que Dieu déclare pur est pur. Je vous rappelle que c'est Pierre qui raconte ces histoires. Souvenez-vous que Pierre a déjà entendu une telle parole dans Actes 11 au verset 9. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Et Pierre a une logique bien claire. Et cette logique, il veut nous la transmettre aujourd'hui. Quatrièmement, Jésus lève les yeux et soupire. Jésus garde son regard et ses pensées en lien étroit et permanent avec son Père. Il utilise la langue des signes pour ce sourd muet, visible par lui-même, en lui montrant d'où vient la guérison. Qu'y a-t-il aussi dans ce soupir ? Là aussi, Pierre se souvient de sa vie et de la relation qu'il avait avec Jésus et du regard compatissant chargé de larmes porté sur lui lorsque le coq a chanté. Soupir de tristesse, mais aussi de compassion. Jésus lit-il aussi quelque chose dans le cœur de notre homme? Ou alors, connaissant le cœur de la foule, ou des disciples, ou le désir du sensationnel? Peu importe. Il reçoit l'autorité de son Père et déclare « Ouvre-toi !» C'est tout. Comme tout est accompli. Quelle puissance de vie! Cinquièmement. Aussitôt, est-il écrit, pas demain ou plus tard, tout de suite, le changement s'opère. Il parle, et non seulement il parle, mais il témoigne. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous instruit et nous donne, si nous prenons le temps d'écouter, les directives pour alimenter nos requêtes et nos prières, guérir nos maladies et nous libérer de notre captivité. Je vous rappelle le titre de ce message, « J'ai quelque chose à te dire ». Dieu désire absolument nous parler au travers de cet épisode. Il désire nous libérer, il désire nous guérir. Ne sommes-nous pas un peu interpellés par rapport à cette sourdité, cette difficulté à parler? Ne voyons-nous pas par là une main tendue par notre Dieu, une porte à laquelle Jésus frappe, nous invitant à ouvrir et à accepter qu'il entre pleinement dans notre vie, dans un partage d'intimité, loin des regards et du bruit. Ouvre-toi. Derrière cette distance parcourue et cette guérison hors des frontières, il y a un Dieu qui ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur, et qui est persévérant. Derrière le désir de Jésus de nous mettre à l'écart, il y a une volonté de nous attirer à lui, de nous parler, afin de nous permettre de faire nous-mêmes le bon choix. Dans Zacharie 1 au verset 3, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Derrière cette injonction et cette autorité, ouvre-toi, il y a pour nous aujourd'hui un besoin vital et évident. Seigneur, augmente-nous la foi. Et Jésus de répondre, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Derrière le soupir de Jésus, il y a la tristesse de ce monde, la compassion et l'amour qu'il désire nous communiquer. Ce que Dieu désire déposer en nous au travers de cet épisode est simple. Il nous interpelle. Je suis assis à la droite de mon Père et j'intercède pour chacun d'entre vous. Je désire vous guérir de vos maladies, de vos infirmités, de votre incrédulité. Je désire aujourd'hui encore vous faire découvrir le Père et le chemin de la guérison du cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Entendons-nous cette voix? Comprenons-nous ce qu'il entend, ce qu'il attend de nous? Sommes-nous également prêts à écouter ce qu'il a à nous dire? Sommes-nous prêts à nous soumettre à sa volonté et à répondre à sa voix? Faisons-nous nôtre ce grand étonnement qui caractérisait ceux qui avaient participé au miracle, et pouvons-nous nous réjouir avec assurance de ce que Jésus fait même entendre les sourds et parler les muets? Alors, prenons le temps de faire silence devant notre Dieu et écoutons-le. Sommes-nous malentendants? Préférons-nous le bruit de ce monde au silence d'un espace à part? Dieu désire se glorifier et son appel est audible au travers de ce message. Ouvre-toi, j'ai quelque chose à te dire. Y a-t-il peut-être au milieu de nous des gens qui sont malentendants ou des habitués du bruit, des sourds de naissance ou des sourds devenus sourds en route? Dieu désire aujourd'hui encore nous libérer. Si Dieu a envoyé son Fils en lui faisant parcourir plus de 160 kilomètres pour parler à une seule personne, à combien plus forte raison ne va-t-il pas se déplacer à Neuchâtel, à l'église de Lévol, par hasard, ou par exemple, afin de nous toucher, afin de nous guérir, afin de nous restaurer, car il est là. Il a promis qu'il était au milieu de nous jusqu'à son retour. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix. Amen.